Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9 et www.radio-univers.com.
Édition spéciale de Radio Univers en direct du village du Festival de danse contemporaine et d'art vivant Extension Sauvage pour une heure d'émission et d'interview des danseuses, danseurs, chorégraphes et artistes invités.
Une émission in situ, en public et en plein air, cours des arts à Combourg.
Logosphère en Extension Sauvage, c'est ici et maintenant sur les ondes d'Univers. Vous êtes bien sur les ondes d'Univers 99.9. Vous êtes bien sur les ondes d'Univers 99.9. Oui, et la technique fonctionne. Nous sommes en direct sur le parvis de la médiathèque de Combourg, la Cour des Arts de Combourg et le www.radio-univers.com à l'écoute de l'émission Logosphère, édition spéciale donc, comme je le dis, une émission de Logosphère en in situ et en public pour une heure d'entretien. C'est vendredi et samedi avec les artistes invités durant tout ce week-end consacré à la danse contemporaine. Une heure donc d'émission avec trois artistes invités ce soir et qui ont joué ou joueront leur spectacle durant ce week-end. Olga Dukovnaya pour ce spectacle, Swan Lake Solo, Olga qui sort quasiment de scène. La musicienne, Tomoko Sauvage pour ce spectacle Waterball Performance. Et deux spectacles joués dans le parc du château de Combourg et Louise Van Est pour Metakutse qui se jouera demain au Petit Bois du Lac Tranquille. Une émission que j'ai la joie de co-animer durant cette heure avec Sarah Perussel, médiatrice du festival Extension Sauvage. Bonjour à toi, Sarah.
Bonjour Mathieu, bonjour et bienvenue à toutes les trois. Alors ce qu'on vous propose, c'est de vous interviewer sur vos parcours, sur vos œuvres. Donc on va commencer par Olga. Olga Dukovnaya, vous êtes une chorégraphe et danseuse franco-ukrainienne. Vous êtes diplômée de l'école de danse contemporaine Partz à Bruxelles et également du Centre national de danse contemporaine d'Angers. Vous venez de jouer la pièce Swan Lake Solo dans le parc du château. Donc en français, Swan Lake Solo, c'est le lac des cygnes de Tchaïkovski. Une heure de réinterprétation de ce monument de la danse où vous dansez quasiment seul. À un moment donné, vous êtes rejoint par Julien Monti. Alors, quelles impressions d'avoir dansé ce soir devant ce cadre exceptionnel du château. Vous venez tout juste de sortir, c'était il y a une heure.
Vous m'entendez?
Oui.
Bonjour. La pièce, elle a un an et elle était faite pour les espaces atypiques. Mais c'est la première fois que j'ai eu finalement le château. Et en fait, de la départ, j'étais toujours bon pour le lac de Cygnes. Il faut le château derrière, parce que si vous avez vu les vraies décorations de vrais ballets, il y a quand même grand lac, château en ruine, les cygnes partout, décorations, tout ça. Et nous, on n'a rien du tout. Donc, on essaie de placer du coup la pièce dans les contextes très différents et de nous servir en fait de tous ces espaces comme déco. Et du coup, là, bien sûr, le château, c'était idéal. Ça ne pouvait pas être mieux que ça pour nous, pour la pièce.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de spectacle? D'ailleurs, vous en parlez pendant le spectacle. Vous arrêtez de danser à un moment donné pour expliquer comment est né ce spectacle. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous re-raconter un petit peu?
Alors, c'est vraiment ce que je dis dans le texte, c'est la réalité. C'est que j'ai travaillé sur cette ballet pendant, en fait, 2 années de confinement dans ma chambre. Et j'en ai parlé de ce ballet au Plan Jean, ici en France. Et petit à petit, je me suis rendu compte que toute cette couche de contexte politique qui est extrêmement liée, pour moi, par exemple, comme pour tous les gens des anciens pays de l'URSS, il n'est pas du tout connu ici en France. Et c'est en fait parce que à l'URSS, pendant les morts successives de secrétaires généraux du Parti communiste, et après, en 1991, pendant le putsch, le lac de Cygnes, ce ballet-là, il était diffusé sur toutes les chaînes de télé pendant 1 ou même 3 jours pendant le putsch. Donc, en fait, quand les gens essayaient de trouver l'information, les nouvelles, ils sont toujours tombés sur le lac de Cygnes, mais exactement même acte de lac de Cygnes, au même endroit, même version. Donc, en fait, pour nous, ça a devenu une sorte de... presque requiem, en fait, tellement c'est lié à la chute de régime et à la mort. Donc, quand je me suis rendu compte que personne connaît, personne connaît cette histoire ici, parce que vraiment, j'ai pensé que tout le monde connaît. Chez nous, tout le monde connaît, même les jeunes, même, je ne sais pas, c'est quelque chose que tout le monde partage. Ici, pas du tout. Et puis, j'ai quand même hésité, j'ai pas pensé de rajouter le texte, vraiment. Sauf que la première de la pièce, c'était en mai 2022, et la guerre a commencé en février 2022. Du coup, quand la guerre a commencé, en plus, c'était une très grande discussion parmi les Ukrainiennes de vraiment un peu boycotter la culture russe. On n'a pas besoin de cette culture-là. Surtout, pourquoi les ballets ukrainiennes continuent de danser que les œuvres russes? C'est quoi la culture ukrainienne, tout ça? Donc, même pour moi-même, de retrouver en fait la raison pourquoi je danse cette pièce toujours, hein, alors que les Russes bombardent les villes ukrainiennes. Et du coup, ça a devenu ultra important pour moi de partager du coup ce contexte que moi, je connaissais, bien sûr, mais personne n'a partagé ça avec moi. Et du coup, le texte, il n'explique pas ce que je fais, mais je pense que de partager ce contexte, ça a devenu très, très important. Et je pense que ça change un petit peu aussi le regard, parce que du coup, c'est le ballet le plus politique, je pense, qui existe. Hein. Peut-être Spartak aussi.
Quel sens donnez-vous justement au, comment dirais-je, à cette pièce, compte tenu du voilà de l'histoire passée et présente?
Du coup, en fait, comme c'est le ballet qui est extrêmement associé dans notre inconscient collectif avec la chute de régime, avec la fin, vraiment la chute de l'URSS. Et à la mort de tous les secrétaires généraux, ça a devenu, et je dis ça dans la pièce, ça a devenu comme une pensée magique. En fait, tout le monde sait qu'en fait, quand il y a la mort ou quand il y a la chute de régime, il y a sûrement le lac de Cygnes quelque part. Donc pour nous, ça a devenu extrêmement lié. Et du coup, même dans tout ce qui est réseaux sociaux, Russophone, Internet, tout ça, il y a plein blagues, images, commentaires par rapport à ça. Par exemple, sur vraiment front page, je ne sais pas comment dire ça en français, première page de journal Novaya Gazeta, juste au début de la guerre, ils ont carrément mis l'image de quatre ballerines, vous savez, de la danse de petite cygne. Tout le monde connaît, c'est celui-là. Pa, 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 pa. Et vous savez, elles croisent les mains et tout ça. Et donc, c'était cette image-là, par exemple, avec une immense explosion derrière. Ou c'était une autre où c'était, par exemple, les danseuses de Bolshoï habillées de la tête à pied en cygne blanc qui étaient fumées dans les loges. Et derrière, c'était marqué « Allez-y, tout le monde vous attend ». Donc en fait, pour nous, ça a devenu vraiment cette histoire de pensée magique. Comme si on se dit, et même avec, j'ai une copine qui est toujours à Moscou, on se dit, là, il faut faire que les lacs de Cygnes, en fait, tout le temps, avec toutes les formes de lacs de Cygnes, les grands, les petits, pour les enfants, pour les adultes, pour les vieux. Et c'est comme si, en fait, ça nous fait attirer, en fait, la fin de ce régime-là. Ça a devenu une sorte de... Vous voyez, une petit miracle qu'on pense on peut créer ou on peut stimuler, en fait, dans le monde. Donc, ça a devenu un peu presque un jeu. Jeu, c'est peut-être pas un mot correct pour ce type de situation. Mais oui, pour moi, c'est en fait ça. Et du coup, je le sens quand je danse la pièce. Et c'est très intéressant pour moi de sentir ce truc de... Voilà, petite magie, quoi.
Alors, j'avais une question. Cette pièce, est-ce que vous l'avez déjà jouée en Ukraine? Est-ce que vous prévoyez un jour de la danser en Ukraine?
Écoutez, j'aimerais bien. Pour l'instant, c'est très dangereux. Hein. Et comme j'ai deux enfants, je n'ose pas d'y aller danser la pièce, alors que, bien sûr, un jour, ça serait un grand plaisir, ou même de faire restitution pour les danseurs locaux. Ça me ferait trop plaisir de faire ça. Et là, d'ailleurs, je prépare une prochaine pièce et c'est un peu la même chose parce qu'en gros, ce projet-là, ce n'est pas que politique. Au départ, en fait, l'idée, c'était juste de vider, en fait, cette forme-là de ballet du contexte et de regarder qu'est-ce que c'est, en fait, les mouvements classiques, qu'est-ce que c'est en vrai. Si on imagine qu'on ne sait rien de rien de ça, mais qu'est-ce qui reste, en fait? Si j'oublie cette histoire de prince, princesse, cygne, toutes ces choses, qu'est-ce qui reste dans le corps, en fait, si on essaie de le faire, et après, avec les outils très contemporains, tout simple, en fait, très formel, accélérer, décélérer, rajouter en force, ralentir, des choses comme ça. ou de décomposer, de faire en boucle. Et par exemple, là, j'essaie de faire... je fais exactement le même processus, mais sur les danses ukrainiennes folkloriques. Et c'est assez drôle parce que c'est complètement opposé en type de matériel. Donc oui, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup. Mais pour l'instant, je ne suis pas retournée en Ukraine depuis le début de la guerre.
Cette pièce dure environ...
35 minutes.
La pièce originale, 2h30.
2h30. Oui, mais il y a aussi 32 danseurs, immense décoration et tout ça. Et puis, j'ai quand même travaillé presque entièrement que le deuxième acte de ballet, alors qu'il y en a quatre. Mais en fait, le premier acte, il est très théâtral parce que là, en fait, on a toute cette histoire qui introduit la reine, qui dit à son fils, le prince, écoute, t'as déjà 18 ans, c'est vraiment demain qu'il faut que tu te trouves une femme parce qu'on ne peut pas rester célibataire pour trop longtemps, blablabla. Donc en fait, il y a plein de scènes très théâtrales. Et puis en fait, on change sur ce deuxième acte. Et ça, c'est le plus connu, je dirais. C'est vraiment celui-là de Lac et de Cygne Blanc, en fait, et de tout ce truc de corps des ballets. C'est en fait là où elle rencontre la princesse. Et c'est celui-là que j'ai pris parce que chorégraphiquement, ça m'intéressait le plus, en fait. Et ben, troisième acte, c'est le bal. Mais du coup, c'est construit presque entièrement de danse historique qui m'intéressait pas autant que ça, en fait, parce que moi, je voulais travailler clairement presque les clichés de l'acte de cygne. À quoi on pense quand on pense à l'acte de cygne? On pense rarement à la danse italienne, par exemple, alors que ça fait partie quand même de l'acte de cygne. Et puis, quatrième acte, là, je pense que Tchaïkovski, il en pouvait plus, et du coup, tout le reste de l'histoire, ça passe très, très vite. Pendant le quatrième acte, toute cette arrivée d'Hibou, la danse avec la cygne noire, grand catastrophe, il tombe amoureux, il ne sait plus, nanana, tout ça, ça se passe au quatrième acte, grand, grand drame. Je me suis dit, bon, je ne sais pas. Donc, je travaille sur le deuxième acte.
Et alors, vous avez beaucoup manié l'humour aussi dans le spectacle. Il y a un moment où on a quand même envie de rire face à cet homme qui se met à sautiller ensemble. C'était une composante importante pour le spectacle?
Bah, je pense que c'est ma nature qui sort, en fait. déjà, sachant que le contexte est vraiment dramatique, je dirais surtout aujourd'hui, je ne voulais pas du tout partir dans le côté sombre, en fait, de choses. Au contraire, moi, je suis quelqu'un qui préfère toujours de voir de la beauté, en fait, dans tout, et de l'humour aussi. Et l'humour, ça donne aussi un peu de distance. Et par contre, je ne fais pas des blagues, genre je ne fais pas les commentaires pour dire que le ballet aujourd'hui, est, je ne sais pas, c'est stupide. Ce n'est pas du tout ça, en fait. Mais pour moi, c'était important d'amener un peu des trucs drôles, des trucs bizarres. Mais en même temps, on le fait super sérieusement. On est en train de mourir de fatigue. Mais c'est clair que la grande chute de danseuses et des choses comme ça... On est bien conscient que c'est assez drôle. Et je voulais bien finir sur une note un peu positive. Donc on a mis cette partie la plus drôle avec beaucoup de l'humour à la fin, juste après que je dise en fait le texte qui est bien sérieux et assez dramatique en fait. Et le contexte est très dramatique. Donc là, je vois dans les visages de tous les gens, quand je dis en plus, je dis que du coup, dernière chose qui était diffusée sur TV Rain, la station de télé libre russe. Dernière chose qui était diffusée avant sa coupure, parce que c'était coupé, c'était le lac de cygne. Puis je reprends la position et on danse. Et je vois dans les têtes de gens qu'ils ont peur que là, ça va être une grande drame. Et bien là, on fait les trucs drôles.
Est-ce que vous pourriez nous parler aussi de la création musicale qui accompagne cette réinterprétation? On peut y entendre de la musique électro-conceptuelle avec... des chœurs, des boucles, des distorsions, notamment du compositeur aussi, oui. Avec qui vous travaillez?
Du coup, on a récomposé pas que la danse, mais on a aussi récomposé la musique. C'était l'idée de départ de faire même processus, en fait, pour la danse et pour la musique, décomposition ou recyclage. Pour moi, c'est recyclage. Plutôt, on prend quelque chose qui existe et on voit ce qu'on peut faire avec. Et j'ai travaillé avec le compositeur russe, en plus, Anton Svitlichny. Et du coup, en fait, seule chose que j'ai gardée de ballet initial, parce que pour moi, ce n'est pas l'histoire de l'amour, déjà, Swan Lake, c'est vraiment l'histoire de choix, parce qu'en fait, il devrait choisir entre cygne noir et cygne blanc. Et comme d'habitude, on est beaucoup plus attiré par le noir. Et du coup, c'était vraiment le choix entre les deux opposés. Et moi, j'ai gardé cette histoire d'opposition quand j'ai fait la composition de la danse et de la musique. Et du coup, la musique, on se dit que Tchaïkovski, on appelait ça la musique organique. Du coup, pour trouver quelque chose, l'opposé de ça, c'était la musique électronique. Et c'est pour ça qu'on commence par Moby, parce qu'en plus... En fait, cette musique, elle change la vitesse et moi, je cherchais ça. Je cherchais quelque chose pour changer les vitesses et là, c'est exactement ce qu'on trouve dans ce morceau. Et puis, les deux autres morceaux on a complètement décomposé en passant par toutes les possibilités. Ça veut dire qu'on a musique organique, originelle, Tchaïkovski. On a opposé de ça, c'est Moby. Et entre les deux, on a aussi le son originel, enregistré de la musique classique, mais coupé en petits briques de Lego et complètement décomposé. On ne reconnaît presque plus la musique, mais en fait, c'est vraiment des bouts de musique de Tchaïkovski coupés en mini briques. Et sinon, on a aussi un morceau où, au contraire, on a la mélodie, on a gardé la mélodie organique, ça veut dire que c'est la mélodie originelle, mais avec le son électronique, en fait, qui domine à la fin. Donc en fait, on a passé par toutes les possibilités de composition.
Merci Olga. Alors une dimension musicale très importante et du coup, ça nous amène à notre deuxième invité, Tomoko Sauvage, qui a proposé ce soir Waterballs Performance également dans la cour du château, comme vous Olga. Alors Tomoko Sauvage, vous avez grandi au Japon, vous avez vécu à New York, où vous avez étudié le piano jazz et vous vous installez en France en 2003. Vous avez développé Waterball Performance, donc qui est une performance électroacoustique durant laquelle vous jouez avec les sons de l'eau. Vous faites un peu DJ aquatique. Et le dispositif que vous avez mis en place, c'est une série de bols d'eau en céramique disposés devant vous, dans lequel vous plongez des hydrophones, donc c'est des microphones aquatiques, tous reliés à une table de mixage. Et ce sont les différents mouvements de l'eau faits avec vos mains, les agitations, qui vont composer cette pièce sonore. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de cet instrument ? Parce que vous l'avez développé sur plusieurs années. D'où c'est venu ?
Il y a un instrument indien qui s'appelle Jalatarangam. C'est un instrument composé de bols d'eau en céramique, comme le mien, mais tapé avec des baguettes. Donc la quantité d'eau change la hauteur du son. Et je suis arrivée à cet instrument en passant par... le jazz, musicien jazz comme Terry Riley ou Alice Coltrane qui était influencé par la musique indienne. Ensuite, quand je suis venue en France, avec cette influence, j'ai voulu étudier la musique indienne. Donc j'ai pris un peu de cours de la musique hindoustanie, l'improvisation de cette musique. Et un jour, j'étais au concert de cet instrument, Jalatarangam, joué par un maître qui s'appelle Anam Patiganesa. Ça m'a fasciné complètement. La simplicité du dispositif et du son. Donc, le lendemain, j'ai tout de suite commencé à taper des bols dans ma cuisine. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et après, un peu plus tard, j'ai eu envie de me plonger dans l'eau, de une sorte d'immersion dans l'eau, en écoutant en fait le son qui bouge avec les vagues d'eau. C'est ça qui m'a fascinée. Et j'ai entendu parler de microfonds sous-marins que j'ai acheté. Et voilà, ça m'a changé la vie. Depuis, j'ai développé petit à petit cet instrument.
Il y a donc l'idée de rester dans un fil qui est celui de l'improvisation en jazz et en musique industrielle.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que personne ne pense que c'est un musicien de jazz aujourd'hui, mais je pense que dans ma tête, j'ai quand même cette manière de faire la musique en cherchant le fil du son et de mélodie en improvisant.
Votre instrument donc de formation, c'était le piano, qui est un instrument à percussion. Pour le coup,
oui.
L'eau implique une autre technique de jeu.
Oui.
C'est une question.
Oui, oui, totalement. Bien sûr, c'est la technique est très, très différente. Et puis, ces techniques sont un peu inventées par moi-même parce que c'était un instrument qui n'existait pas. Mais en même temps, le dispositif a une similarité avec le piano parce que à ma gauche, il y a le grand bol, plus grand bol, qui sonne donc le plus bas. Et à ma droite, il y a des bols plus petits qui sont plus des notes qui ont des notes plus hautes. Donc une sorte de quand même. Il y a quelque chose de pianistique dans cet instrument. Je pense qu'il reste quand même une logique dans ma tête qui vient de la pratique du piano.
Est-ce que vous pourriez nous parler des bols en céramique que vous avez conçus spécialement pour cet instrument?
Oui, j'ai fait une résidence au Craft de Limoges. C'est un centre de recherche de céramique. Il y a presque 15 ans, 13 ans. C'est drôle parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et c'était un centre de recherche de céramique assez haut de gamme. Ils travaillaient avec des designers italiens qui fabriquent des mobiliers super chers, etc. Mais donc eux, ils ne voulaient pas vraiment travailler avec nous. Et du coup, ils ont proposé de réutiliser les moules qu'ils avaient déjà pour fabriquer des cloches en porcelaine, en céramique. Enfin, je pense que c'était la porcelaine. Et ils ont coupé cette cloche pour faire le bol. Donc, en fait, pour moi, c'est une... Et maintenant, je fais une sorte de recherche sur les cloches inversées. Donc, pour moi, mes bols sont des cloches inversées. Mais voilà, donc il y a plein d'anecdotes qui font l'histoire de cet instrument que je suis encore en train de chercher.
Très bien, on va faire une petite pause musicale dans cette émission avec Fleuve Mésoganette.
Mésoganette et créez un mot terre les vermes antique du on Arpal en grèce étal en or agal en rolo en enfé mais au connaître écrés amour
Écoutez Logosphère en direct du festival Extension Sauvage sur les ondes d'Univers 99.9. De retour dans l'émission Logosphère sur les ondes d'Univers 99.9 en direct du festival Extension Sauvage. Je le rappelle, nous sommes avec Olga Dukovnaya, Tomoko Sauvage et Louise Van Est, donc pour nous parler de leurs expériences et notamment aussi, enfin et aussi, eh bien de leurs performances qu'elles ont données ou qu'elles vont donner durant ce week-end d'Extension Sauvage. On parlait tout à l'heure de la composition musicale, Tomoko. Tout simplement, est-ce que vous pourriez nous parler, de nous expliquer, enfin oui, nous dire dans quels endroits vous jouez habituellement. Et parce que là, vous jouiez dans le parc du château, en extérieur. J'imagine que le contexte est un peu différent.
Oui, c'est très rare que j'accepte de jouer à l'extérieur parce que je joue beaucoup avec la résonance du lieu, la résonance purement acoustique. Donc, pour moi, c'était plutôt challenging. de jouer dans, à l'extérieur. Mais j'ai demandé du coup une sorte de bosquet qu'ils ont trouvé très bien dans le parc, un très beau parc, un bosquet qui est très mignon, très, très beau, avec plein de... une sorte de vide entouré dans des arbres, très beaux arbres. Donc c'était pour moi intéressant. Enfin, je joue déjà avec des éléments qui sont moitié incontrôlables, donc de l'eau qui s'évapore, l'eau qui bouge tout le temps, les gouttes qui tombent, qui changent donc la quantité d'eau et aussi changent la fréquence. Mais là, en plus, donc, dehors, il y a du vent, il y a un système de goutte à goutte, mais avec du vent, ça part un peu partout. Donc, des rythmes assez encore plus irréguliers et aussi ben, ce qui était le plus intéressant je pense était une sorte de dialogue avec avec le paysage sonore. Mmh. Il y a beaucoup d'oiseaux qui me semblait répondre au son que je produisais, surtout quand je jouais avec les bulles d'eau. C'est des micro-bulles d'eau qui sortent de la céramique poreuse, le biscuit dans l'eau. Et ça fait le son... assez étonnant et chaque fois très différent. Mais aujourd'hui, ça sonnait un peu comme des insectes bizarres et j'ai l'impression que ça agitait un peu les oiseaux. Voilà.
Même question, Olga. Le fait de jouer en extérieur, le lac des cygnes, voilà. Quelle impression est-ce que voilà par rapport aux scènes habituelles?
Bah en fait on évite la scène. C'était la pièce faite pour les espaces atypiques. Mm-hmm. Et surtout plutôt à l'extérieur. Moi je voulais ça, donc ça c'est pas nouveau. Mm-hmm. Et moi j'adore. Pour moi c'est important en fait de comme j'ai dit, comme j'ai pas de décoration et d'habitude il y a un décor immense. Pour moi c'est très très important d'amener la danse à l'extérieur, et puis le côté super brut, parce qu'il faut savoir que, par exemple, surtout la version de jour, on n'a vraiment pas de technique, on n'a rien en fait, on n'a que la musique. Et pour moi, c'était un peu aussi le but du projet, de me dire, c'est la danse qui doit tenir vraiment le spectacle, il n'y a rien d'autre. Si je danse mal, je danse mal. Mais au moins, les gens peuvent regarder le château. Et puis, oui, il y a ce côté très, très brut parce que je saute sur le béton, tout ça. Et ça rajoute encore pour moi une couche d'information ou d'endurance ou de défi, je ne sais pas. Et moi, c'est important pour le projet. Du coup, quand on danse sur le plateau, rarement on accepte des fois parce qu'il n'y a pas de choix. Oh, je déteste ça. C'est trop sombre, trop plat, toujours la même chose. Très bizarre. Et en plus... comme c'est un truc, ballet classique. Du coup, je suis habillée un peu en juste corps. Et en fait, de voir ça, ce type de mouvement, quelque part sur le parking ou dans la forêt, pour moi, ça fait un vrai bascule du coup, visuel, conflit visuel presque. Et du coup, quand c'est sur le plateau, je me sens bizarre. C'est trop accordé, et donc je ne sens pas la nécessité de le faire ça sur le plateau, par exemple.
Merci. Alors, les contraintes extérieures, ça aussi, c'est quelque chose que vous connaissez, Louise Van Est, puisque vous avez imaginé votre pièce Métakoutsé pour l'extérieur. Alors, c'est une performance que l'on retrouvera demain, samedi, dans le parcours 2 à Combourg. Alors, pour vous présenter, Louise Van Est, après une formation en danse classique, vous intégrez l'école de danse contemporaine Partz à Bruxelles. Et vous poursuivez votre formation à New York au sein de la Trisha Brown Company. Vous vous intéressez à travers votre travail à l'inclusion du non-humain dans les enjeux artistiques. Et donc, dans Metakoutsé, quatre danseuses qui vont aussi, comme le disait Tomoko Sauvage à l'instant, s'appuyer comme bande-son sur le chant des oiseaux, parce qu'il n'y a pas d'intervention sonore ou de musique. Donc du coup, ma première question, tout simplement, c'est qu'est-ce que ça signifie Metakoutsé ?
Metakoutsé, c'est un terme que j'ai inventé en voulant raconter à mon compagnon que je lisais un livre de Anna Ting sur les champignons. Et j'avais mal retenu le terme. C'est le Metsutake. Et je lui ai dit, ah, c'est un Metakoutsé, c'est génial ce champignon, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trompée, mais j'ai gardé le mot parce que je l'aimais bien.
C'est drôle.
Ouais.
Alors, c'est une performance qui est pensée justement pour être en extérieur, qui se joue en milieu naturel, du moins dans les paysages floristiques riches et variés. C'est joué parmi et avec aussi. Quel a été tout simplement le processus de création ? Comment c'est venu ?
En fait, depuis plus ou moins 2018, enfin, ce qui m'intéresse dans mon travail de chorégraphe, c'est de déplacer le corps et surtout l'être humain vers d'autres entités, donc de se déshumaniser un petit peu d'une certaine manière. Je l'avais fait longtemps avec des animaux ou avec même dans des idées de films aussi, de transposer mon corps dans des films, des extraits de cinéma. Et là, depuis 2018, c'est autour du végétal que j'ai voulu travailler. Et donc, je l'ai fait, mais beaucoup en intérieur. Et évidemment, à un moment donné, j'ai eu envie de confronter le travail chorégraphique, d'écriture chorégraphique avec l'extérieur, d'où l'idée de ce travail de Metakoutsé.
Durant cette pièce, on s'aperçoit qu'il y a des formes de mimésis, de mimétique avec les éléments naturels, les arbres, les branches, le vent qui passe. Enfin, est-ce que vous pourriez nous parler de la danse et des gestes que vous avez cherché à produire, à penser ?
Bah oui, en fait, c'était pas tant la notion de mimétisme qui m'intéressait, c'était vraiment la notion d'empathie ou de déplacement. De notre manière de fonctionner. Et donc tout ça, c'est vraiment des stratégies pour déjouer le corps, en fait, et pour déjouer une pratique du corps qui était très ancrée en moi. Enfin, en l'occurrence, vous l'avez dit, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait part, ce sont des écoles ou des lieux où le corps est fort imprégné. Et moi, j'avais vachement envie de me désimprégner. Et donc, c'est des stratégies de déplacement. Après... ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne une autre entité, pas tellement de la copier ou de l'imiter, quoi. Et donc là, ici, on a fait tout le temps des allers-retours, en fait, entre, en effet, l'idée de copier, en effet, mais d'incorporer, de comprendre comment ça fonctionnait, même scientifiquement parlant, de voir comment vraiment ça fonctionnait, d'observer. Mais il y a eu un énorme travail de traduction, en fait, où, en fait, l'idée, c'était pas de copier le vent, c'était de voir, tiens, mais qu'est-ce qui se passe quand j'observe le vent d'un point de vue scientifique, d'un point de vue sensoriel, physique, d'un point de vue d'une observation de qu'est-ce que ça fait dans ce monde, et de comment ça se traduit, en fait, au niveau de la gestuelle, du mouvement.
Très bien.
Alors ça, justement, vos danseuses, vous avez travaillé avec elles. Quand vous dites que vous avez étudié scientifiquement, vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez vu avec elles ?
Chacune a amené sa matière personnelle, mais donc c'est vrai qu'on a lu. Moi, je suis assez fan de Wikipédia, donc je tape vent sur Wikipédia. Il y a une série d'informations qui sont assez factuelles, en fait, et qui fonctionnent très rapidement, en fait. Sur nous, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'était au début, avec Metakoutsé, donc on allait chercher là-dedans, mais là, dans le processus dans lequel je continue, en fait, je collabore avec une géologue, et donc j'ai commencé à suivre les cours qu'elle donnait à l'université, et donc c'est, en fait, c'est une mine d'or pour tout un travail corporel, en fait, enfin, en tout cas pour moi.
Oui. Incroyable. Et alors, du coup, vous avez demain donc trois danseuses et aussi une jeune femme danseuse qui a fait du théâtre, une école de théâtre, qui lit un texte à la fin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'écriture de ce texte ?
En fait, ça, c'est une des choses que j'ai découvertes aussi par rapport à ces questions du végétal. Donc, j'ai pas mal lu, évidemment, sur la question d'écologie, de notre rapport hors sol, etc. Et assez souvent revenait cette notion de problématique du langage et de l'apparition de l'alphabet aussi. On disait que c'était David Abraham, par exemple, dans Comment la Terre s'est tue, il pose la question de l'apparition de l'alphabet comme une des causes de notre distanciation avec la Terre, quoi. Qu'avant, par exemple, avec les hiéroglyphes qu'on connaît plus ou moins tous, c'était des signes où il y avait la Terre, le Soleil, les corps au travail dans les champs, et donc on continuait, même à travers un langage et une écriture, à avoir un rapport avec les éléments, la vie. Avec le A, le B, le C, c'est tout à fait vidé d'un sens, et donc c'est abstraitisé, et donc petit à petit, on allait hors sol. Et ça, c'est quelque chose avec lequel moi, j'étais un peu prise en étau, parce que j'adore la littérature, je suis vachement nourrie par ça, ça nourrit mon imaginaire, et en même temps, je voyais ce qu'il voulait dire d'une certaine manière. Et donc, j'ai commencé à vouloir, en fait, faire dialoguer corps et témoignage chorégraphique. Et donc, j'ai commencé, en fait, à écrire un solo que j'avais fait sur le végétal, mais au lieu de... Enfin, je me préparais comme si j'allais le danser en studio, mais au lieu de le danser, je l'écrivais. Et donc, il y a tout un travail d'écriture, de littérature qui est né avec vraiment des informations anatomiques sur, la scène, le public derrière moi, mais aussi le corps en mouvement et ces fameux végétaux qui venaient m'envahir ou des notions scientifiques. Et donc, je suis vraiment en train de travailler là-dessus. Et donc, ces textes-là viennent un peu, en fait, faire un duo avec la danse, quoi.
Pour faire renouer finalement l'écriture, la pensée abstraite avec vraiment le vécu, le ressenti dans le mouvement.
Ce que je trouvais qui amenait quelque chose, c'est que parfois, quand je dis dialogue, c'est que j'avais l'impression que le corps venait transformer le texte par moments, et par d'autres moments, le texte vient déjouer le corps, vient le transformer lui-même, ou vient l'éclairer, quoi. Vient éclairer le spectateur, la spectatrice, sur ce corps qui est en train de bouger. Et donc, il y a une espèce de jeu entre les deux que je trouve assez intéressant. Enfin, en tout cas pour moi.
Il y a l'idée aussi d'explorer, donc, par-delà nature et culture.
Mais c'est vrai, c'est une question vaste. Mais c'est vrai, quand on s'intéresse aux questions d'écologie au sens large, donc pas seulement l'écologie, qu'est-ce qu'on doit faire pour la planète, mais d'écologie, la façon dont on fonctionne, évidemment, on va vers Descola et par de la nature et culture. Mais je pense que, en fait, ce que moi je retiens essentiellement de là, c'est cette question d'essayer de casser les dualismes. Qui sont hyper existants maintenant. Et donc voilà, devoir. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans les notions de chorégraphie, c'est l'entre, entre le spectateur et la spectatrice et la danseuse, entre les danseuses entre elles, entre ces danseuses qui finalement sont assez présentes chorégraphiquement dans l'espace végétal et ce végétal qui continue, et faune et flore d'ailleurs, qui continue à exister parce qu'en fait. Voilà, on coexiste et puis c'est tout. Donc c'est cet espace entre les deux qui m'intéresse, quoi.
Cette envie de créer, est-ce que c'est parce que ça aussi, ça vous a manqué dans votre parcours en tant que danseuse, de vivre cet extérieur, cette nature
C'est vrai que je trouve assez intéressant, en tout cas, depuis qu'on a créé ce Metakoutsé, on l'a un peu joué. Le fait de travailler en extérieur et de performer en extérieur, ça change toutes les formes, les conditions de spectacle. Et c'est pas inintéressant. Donc, je pense que ça vient questionner le théâtre, le lieu théâtre, d'une façon qui est pas inintéressante. Oui, vraiment. Ça pose pas mal de questions et d'enjeux. Oui.
Qu'est-ce qu'elles en disent, vos danseuses, justement, quand vous les amenez à ça ?
Ça a été... En fait, c'est assez intense, parce que... Donc, la première fois qu'on l'a joué, c'était dans l'Aveyron, et il faisait entre 35 et 40 degrés. Donc, on a répété pendant une semaine là, c'était très difficile. Et donc, en fait, on a tout le temps des conditions plus ou moins difficiles. Quand on a joué à Versailles, au Plastic Dance Floor, il a draché. Il y a eu une pluie. Draché, c'est belge, désolé. Il a plu. Il a plu des cordes. Enfin, c'était incroyable. Mais donc, c'est chaque fois des expériences, en fait, très, très intenses, mais très intéressantes aussi, qui nous enrichissent beaucoup, évidemment. Ça crée un lien avec les spectatrices aussi qui est très différent. Je trouve que ça crée une forme de proximité, une forme d'intimité qui me paraît intéressante à expérimenter maintenant. Ouais.
une pièce à retrouver, donc Métakoutsé à retrouver demain dans le petit bois du lac tranquille dans le cadre du parcours artistique du samedi. L'heure, Sarah, c'est...
Alors, on rejoint le parcours à 16h et ensuite on n'indique pas précisément. La foule nous suit et on aura trois spectacles demain, dont Métakoutsé.
Très bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, Louise Van Est. Merci à Olga Dukovnaya, Tomoko Savage, pour ce moment de partage autour de votre travail chorégraphique et de vos performances scéniques respectives. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Juste avant de clore cette première émission, quelques mots, Sarah, pour annoncer la suite de ce week-end en extension sauvage.
Oui, alors demain, rendez-vous à 16h, donc au QG du Festival, Cours des Arts à Combourg, pour le deuxième parcours. Au niveau de la programmation, trois spectacles sont prévus. Métakoutsé, dont on a parlé à l'instant. On trouvera également Delicate People, où la danseuse Ruth Childs va jouer et danser avec les sculptures de la plasticienne Cécile Bouffard. Et enfin, le spectacle coloré de Volmir Cordero, qui s'appelle Outrard. Alors, nous recevrons comme ce soir les artistes en plateau à 20h30. Et tout au long de la journée, vous pourrez venir vous hydrater ou manger un petit bout sur le QG. Il y aura un DJ set, la friperie nomade French Frips, un atelier de broderie. Donc n'hésitez pas à venir aussi avec un petit chapeau ou un jean, un accessoire, un sac à main que vous aimeriez personnaliser. Et il y aura aussi la braderie annuelle de la médiathèque de Combourg. Et ce soir, pour les personnes qui sont avec nous et les auditeurs qui auraient envie de sortir de chez eux, il y aura la danse de Philippe Montade. Donc c'est une initiation à la danse bretonne.
Très bien. C'était Logosphère sur les ondes d'Univers en direct du Festival Extension Sauvage. Nous nous retrouvons demain à 21h pour une nouvelle édition en direct où nos invités seront Volmir Cordero pour Outrard, Cécile Bouffard et Ruth Childs pour Delicate People et Sorour Darabi pour Farsi. Merci aussi au public qui nous a suivis depuis la Cour des Arts de Combourg. C'était Logosphère en Extension Sauvage. Vous êtes bien sur les ondes d'Univers 99.9. Et on va écouter, pour terminer cette émission, eh bien, on va écouter Tour.